Écho du futur, le podcast qui explore les imaginaires de la science-fiction. En partenariat avec Monde Numérique et les pages C'est Demain du Huffington Post. Proxima, ou des destins à venir d'une humanité devenue spatiale. Le film Proxima d'Alice Winocourt, qui date de 2019, est un film d'anticipation qui pourtant n'emprunte aucun des codes du cinéma de science-fiction. A priori, ce pourrait même être un docu-fiction qui raconte les relations entre une femme astronaute qui se prépare à une mission spatiale et sa fille Stella, âgée d'une dizaine d'années. La maman doit expliquer à sa fille pourquoi pendant un an, elles ne se verront plus. Proxima est pourtant bien un film d'anticipation, car l'action se déroule au moment où l'humanité envisage sérieusement d'envoyer un premier équipage humain à destination de la planète Mars. Et c'est là que réside tout l'intérêt du film. Dans l'exploration de l'intersection entre les ambitions spatiales de l'humanité et les réalités personnelles, technologiques et sociales qui en découlent, tout en ouvrant un dialogue sur les conséquences futures et les ambitions pour la société humaine dans son ensemble. Ainsi, l'héroïne Sarah, jouée par Eva Green, fait partie de l'équipage de 3 astronautes qui vont passer un an à bord de la station spatiale en orbite de la Terre, hublot fermé, sans contact visuel direct avec leur planète mère. Cette station pourrait bien être l'actuelle ISS, bien que sa fin de vie ait été programmée pour 2030, ou toute autre station de nouvelle génération au statut international. À bord, tout sera mis en œuvre pour simuler un voyage vers la planète rouge, afin d'étudier les effets sur les humains d'une longue absence de contact direct avec la planète bleue, c'est la mission Proxima. À propos de voyage vers Mars, à ne considérer que le seul trajet aller, celui-ci durera entre 6 et 9 mois. Alors, a-t-on ajouté à cette station spatiale un tambour gravitationnel ? Car, à l'arrivée sur Mars, il n'y aura pas d'aide pour soutenir les corps affaiblis par plusieurs mois de microgravité et à nouveau harassés par la gravité, bien que sur Mars, celle-ci ne représente que les 2/3 de celle ressentie sur Terre, soit 0,6 G. Le tambour gravitationnel est un dispositif aussi bien imaginé par les auteurs de science-fiction que confirmé par les scientifiques. Ne reste aux ingénieurs qu'à faire leur travail. On peut se faire une idée de la taille de cet anneau gravitationnel qui devrait être ajouté à la station spatiale. Avec un diamètre de 60 mètres et une vitesse de rotation de 3 tours par minute, la gravité ressentie serait alors de 0,3 G, soit une gravité équivalente à celle à la surface de la Lune. On pourrait réduire la taille de l'anneau et augmenter sa rotation pour obtenir une gravité similaire. Mais cette configuration rendrait le dispositif inconfortable pour les astronautes à cause de divers phénomènes comme ceux liés à la force de Coriolis ou une trop grande différence de gravité entre les pieds et la tête. Ainsi, arrivés en orbite de Mars avec une masse musculaire pas trop fondue et avec un bon niveau de calcification de leur squelette, deux des conséquences de séjours trop prolongés en microgravité, les astronautes seraient aptes à remplir tous les aspects de leur mission sur le sol de la planète rouge. Si dans le cadre du film, l'anneau gravitationnel est de l'ordre de la spéculation, en prévision de la mission Proxima, l'entraînement que subit Sarah et ses deux compagnons russes et américains est, lui, tout à fait réel. Mais pour Sarah, aux difficultés objectives de cet entraînement hors normes qu'elle subit, d'autres viennent alourdir sa tâche. Parce qu'elle est femme, elle subit des propos sexistes. Parce qu'elle est mère, l'absence qu'elle impose à sa fille est un poids psychologique qu'elle ne peut pas effacer. Et aussi parce qu'elle est femme, Sarah s'impose des efforts supplémentaires pour prouver la légitimité de sa présence dans cette mission. On la voit faire durer un exercice dans une centrifugeuse à plus de 9 G, bien au-delà du temps nécessaire ou habituel. Les quelques paroles de réconfort prodiguées par une femme russe, administratrice des femmes cosmonautes de l'ex-URSS, n'auront que peu d'effet sur une Sarah torturée par la fatigue, les doutes et les sanglots de sa fille. On est loin de l'avenir spatial fantasmé par la science-fiction. Mais l'entraînement avance, la mère dompte aussi bien ses angoisses que les nombreuses procédures, l'esprit de corps finit par apparaître au sein de l'équipage et le jour du décollage arrive. À Baïkonour, la fille de Sarah est présente, même si elle doit rester derrière une vitre pour ne pas rompre la quarantaine qui évite d'emmener des germes en orbite. Et c'est la mise à feu. Sur le pas de tir, dans la nuit de la steppe kazakh, tout le monde pleure, les épouses, les pères, les mères, à l'exception de la petite Stella, perchée sur les épaules de son père. Mais finalement, pourquoi les adultes pleurent-ils ? Face au feu des moteurs de la fusée, ils ont peut-être une conscience, plus ou moins affirmée, d'être les témoins de quelque chose de bien plus important pour l'humanité qu'une simple prouesse technique. En effet, il se pourrait que ce décollage et tous les autres qui suivront, point d'orgue de mois d'entraînement, de décennies de recherche et de politique spatiale, et de milliards d'euros de dépenses, soient l'annonce de tout autre chose que ce seul événement. En effet, une fois qu'elle sera arrivée durablement dans l'espace, il n'est pas sûr que, pour des raisons économiques, l'humanité s'engage dans la construction de stations spatiales susceptibles d'assurer aux astronautes une gravité équivalente à celle perçue sur le sol de la Terre. Les stations spatiales géantes imaginées par la science-fiction pourraient bien ne jamais exister, ne serait-ce que pour réduire les contraintes mécaniques que subiraient les infrastructures de ces stations si elles devaient recréer et maintenir le 1G terrestre. Alors, avec le temps, il se pourrait que là-haut naisse une nouvelle branche de l'humanité. Une humanité adaptée à la vie en gravité faible, adaptée aux rayonnements cosmiques qui augmenteront dès lors qu'une installation humaine quittera la protection de la magnétosphère terrestre en orbite de la Lune, de Mars, les deux premières destinations annoncées par les enthousiastes de l'espace, ou plus loin encore, la ceinture d'astéroïdes. Cet avenir concrétiserait la conviction de Konstantin Tsiolkovsky, scientifique et père de l'astronautique soviétique et moderne: la Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau. Cependant, il faut bien le dire, tout le monde ne voit pas d'un bon œil les efforts technologiques à destination de l'espace. Certains y voient les prémices de tout autre chose qu'une simple aventure humaine et technologique. Ils y voient les préparatifs d'une grande évasion, celle des riches et des nantis. Des preuves, disent-ils, il suffit de voir fleurir les projets en orbite de la Terre, beaucoup sont des projets d'hôtels spatiaux. Si ces projets sont effectivement annoncés pour les années 40, on ne les verra entrer en fonction plus vraisemblablement au-delà du milieu du XXIe siècle. Moment auquel devrait se produire, étrange coïncidence, l'effondrement dont parlent avec tant de véhémence les collapsologues de tout poil. Ces hôtels orbitaux accueilleraient alors les terriens les plus fortunés, seuls capables de se payer un tel billet. Plus raisonnablement, et au fur et à mesure de la territorialisation croissante de l'espace, à terme, il se pourrait bien qu'un jour cette humanité spatiale ne puisse plus retourner sur Terre pour des raisons aussi bien économiques que physiologiques. Quand on a grandi à 1/3 de G, voire 2/3 de G, à bord des stations spatiales conçues pour assurer une gravité optimum entre nécessité et confort, la gravité terrestre devient un supplice, bien qu'on soit prêt pour aller sur la Lune ou Mars. De plus, la distance créée par les réalités économiques et technologiques renforceront les divergences entre terriens et spatiaux. À quelques centaines de kilomètres en orbite de la Terre, les réalités économiques pourraient bien imposer leur couperet. Ce qui est dans l'espace y reste. Si on veut arracher quelque chose du sol terrestre, il faut une sérieuse raison ou un compte bancaire bien fourni. Avec un certain cynisme, ce seraient les règles d'une économie spatiale en circuit court qui s'imposeraient. On consomme avant tout ce qui est produit à proximité gravitationnelle. Tout puits gravitationnel, le fait de passer d'un sol à l'espace ou inversement, devenant une barrière quasiment infranchissable pour le commun des mortels, que ceux-ci soient terriens ou spatiaux. Alors, dans le film Proxima, les adultes qui voient partir l'équipage vers l'ISS pleurent car ils pourraient bien avoir la conscience, plus ou moins avouée, qu'ils sont témoins de la préparation d'une nouvelle aventure humaine des plus folles. Cette mission, celle qui l'ont précédée et celle qui lui succéderont, faisant sortir l'humanité de son berceau, la Terre, ouvrirait à l'humanité les portes de son destin spatial. Mais alors que la fusée qui emmène sa mère vers l'orbite de la Terre s'éloigne dans le ciel, la petite Sarah, elle, on l'a dit, ne pleure pas. Le visage éclairé par les flammes de la fusée qui s'élève vers le ciel noir, elle semble avoir accepté l'absence de sa mère. Elle semble vouloir tourner son regard vers la Terre, vers les chevaux qu'elle aime tant et qui galopent au-delà du pas de tir. Alors, Peut-on ou doit-on empêcher le destin spatial de l'humanité ? À plus ou moins long terme, les enjeux climatiques pourraient-ils plaider dans le sens d'une interdiction ? À l'inverse, si on accepte le fait qu'il est dans la nature de l'humanité de partir vers les étoiles, pourra-t-on toujours l'obliger à continuer à travailler au bénéfice de l'humanité restée terrestre ? À moins que, à l'image de Stella, l'humanité se tourne résolument vers la Terre. Alors, vous en dites quoi ? Et rendez-vous avant la fin de l'Anthropocène pour un nouveau podcast d'Écho du futur. Une production de futurhebdo.fr et du comptoir prospectiviste.